Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les Actes des Apôtres, et au chapitre 3. Nous approchons de cette période de Noël où nous parlons du Sauveur. Et donc dans ce chapitre 3 des Actes des Apôtres, eh bien, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Voyons voir comment Dieu a réaffirmé cela pour les enfants de Judée et de Galilée à l'époque de l'Église primitive. Donc, Actes des Apôtres, le récit de la guérison de cet homme, eh bien, elle porte sur les chapitres 3 et 4. Hein. Finalement, c'est deux chapitres qui vont ensemble. Nous allons surtout rester dans le troisième chapitre et puis faire référence au quatrième. Je lis le récit de la guérison de ce boiteux, cet homme boiteux, là, au chapitre 3 et verset 1. Donc je lis les premiers 11 versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, 15 heures, hein. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Voilà, tout simplement, pas plus de détails, mais y a tout ce qu'il faut. Il est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je vais dans le chapitre 4, je vais trouver que Pierre et Jean vont être arrêtés par les Sadducéens et les responsables du temple. Ils vont être arrêtés parce que justement, ils se servaient de Jésus-Christ pour enseigner la résurrection. Les Sadducéens, c'était une secte du judaïsme qui ne croyait pas à la résurrection. Donc, pour eux, ça les embêtait que Jésus, ces deux apôtres, Pierre et Jean, se servent de Jésus et déclarent qu'il est ressuscité, et donc déclarent que la résurrection est une réalité. C'est fou comment les gens, ils vont rejeter quelque chose parce que ce n'est pas leur doctrine. Pas parce que c'est vrai ou pas vrai, mais parce que ce n'est pas leur doctrine. Et ce serait plus simple qu'ils changent de leur doctrine et qu'ils changent plutôt que d'essayer de nier ce qui est évident. Hein, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et on leur demande par quel pouvoir avez-vous guéri cet homme ? Par quel pouvoir ? Et le mot pouvoir, c'est le mot qui est traduit ailleurs par puissance. C'est le même mot que Jésus a employé quand il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance venant d'en haut. C'est le mot dynamis, d'où nous avons, en français, nous avons les mots dynamique, dynamo, c'est une source d'énergie, c'est une puissance. Il dit, c'est par quelle puissance, par quelle autorité, plutôt par quel pouvoir est-ce que vous avez guéri cet homme? Parce que Jésus avait dit, et c'est là où il emploie le mot, il avait dit en Luc chapitre 24, verset 49, il dit, voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Hein, donc cette puissance-là. Alors, eux n'ont fait que, ils ont attendu à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende sur eux, et puis là, ils commencent à agir. Et les disciples, les juifs et le Sanhédrin leur demandent, mais par quel pouvoir, par quelle puissance est-ce que vous avez guéri cet homme? On ne leur demandera pas seulement par quelle puissance, mais vous le voyez au verset 7 hein, du chapitre 4, verset 7, on leur demanda par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui? Ils vont répondre à la question aussi, au nom de qui? Et ils répondront au verset 10, il dit, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà. Ils n'ont pas donné une réponse longue, mais tous les mots étaient importants. Il dit, c'est par Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est guéri. Et c'est quand même une guérison extraordinaire quand on s'y arrête. Mais voyons d'abord les circonstances de cette guérison. Au chapitre 3, hein, c'est le passage que nous avons lu, les 10 premiers versets. Vous savez, au premier abord, le cadre semble très ordinaire. Un mendiant se trouve à l'entrée du temple, à l'heure de la prière. Vous savez, vous pouvez voyager dans pas mal de pays encore aujourd'hui et trouver des mendiants qui sont à la porte d'un lieu saint, qui sont à la porte d'un lieu de pèlerinage, qui sont là quand les religieux et les pieux là arrivent, et c'est un moment sensible, on veut faire un geste pour Dieu parce qu'on vient. Alors c'est une position stratégique pour un mendiant. Et lui, c'était son poste, on l'amenait chaque jour, et c'est comme ça que peut-être qu'il vivait et peut-être qu'il faisait vivre sa famille. C'est là où se trouve cet homme, il a 40 ans, et il demande l'aumône, et donc il voit Pierre et Jean, qui sont mêlés à la foule, et les voient passer, il leur demande l'aumône. Et rien de plus ordinaire. Mais c'est là où ça change. Et les circonstances prennent une autre tournure, c'est que cet homme, je ne sais pas s'il tend un chapeau, s'il tend une petite boîte, s'il tend sa main, comment il fait, mais il demande l'aumône à Pierre et Jean. Et de tout ce que moi j'ai vu toujours, ou les gens font semblant de rien voir et puis continuent tout droit, ou bien les gens font le petit geste et ils laissent tomber deux, trois pièces. Mais là, Pierre s'arrête, il le regarde, il dit « Regarde-moi bien ». Le mendiant, bon, il le regarde, qu'est-ce qu'il va faire autrement, hein? Il le regarde, qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas pourquoi Pierre a dit ça. Est-ce qu'il a dit « Regarde-moi, est-ce que tu crois que moi j'ai de l'argent ?» Peut-être, où il dit, regarde-moi, pourquoi est-ce que tu me demandes à moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Je ne sais pas pourquoi Pierre s'est arrêté, c'est bizarre la manière dont il pose la question. Et mais, après, il nous dit que, quand il dit, regarde-nous, au verset 5, il les regarde attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Après, il y a ce regard-là, où cet homme, il les regarde, et puis dans son regard, tu as quelque chose pour moi. tu as quelque chose pour moi. Mais c'est là où je m'arrête parce que c'est plus la même chose. Et je dis, se peut-il que Pierre regarde dans les yeux de ce mendiant et voit ses yeux qui demandent quelque chose et qui demande vraiment, qui s'attend à vraiment quelque chose. Est-ce qu'il voit dans les yeux de cet homme, ce mendiant, le cri de Bartimée qui avait entendu parler, que Jésus passait et qui tout d'un coup se met à crier « Jésus, fils de David, sauve-nous, guéris-nous, guéris-moi, aie pitié de moi. » Peut-être est-ce que dans les yeux il y avait ce cri. Peut-être est-ce que ce mendiant, tout d'un coup, il associe, puis il sait que Pierre et Jean, mais ça, c'est des disciples qui étaient avec Jésus. Peut-être qu'eux, ils ont quelque chose pour moi. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qui se passe là, entre eux. Ils se regardent l'un l'autre, et tout d'un coup, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et un peu plus loin, lorsque nous regardons plus bas, là au verset 16, quand Pierre explique ce qui s'est passé, au verset 16 dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il dit, cet homme a été guéri, c'est par la foi. Et c'est par la foi en Jésus-Christ. Quelque part, j'ai comme ce sentiment que cet homme, il a regardé à Pierre et à Jean, et il s'attendait à recevoir de Dieu quelque chose au travers d'eux. Il les a associés dans son esprit, il les a associés à Jésus-Christ, et il a exercé de la foi. Il a eu une espérance. Il s'attendait à ce qu'il lui apporte quelque chose. Peut-être qu'il n'aurait pas su formuler exactement ce qu'il pouvait recevoir, mais il a su qu'il y avait quelque chose, ils avaient quelque chose pour lui. Et il a exercé de la foi. Et quelque part, on a compris ce qu'il désirait, quel était le désir de son cœur. Et Pierre, là, c'est tout nouveau hein, de guérir quelqu'un. Pentecôte vient de passer, il y a eu des choses, mais là, et Pierre, tout d'un coup, il, poussé par l'esprit, il prend l'homme par sa main droite, et il dit, lève-toi et marche. Et cet homme se lève. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement est-ce qu'il se lève et puis il faut le tenir et puis maintenant il va apprendre à marcher, mais c'est qu'il se lève, il marche, il saute et il se réjouit. Et vous savez, c'est comme il est là comme un veau qu'on vient de libérer de l'étable. Ah, il fait des bonds dans tous les sens, tellement il est heureux. Et bon, nous savons qu'encore aujourd'hui, même avec nos capacités, on a besoin de quand même une rééducation. On sait que l'être humain oublie comment marcher s'il ne la pratique plus. Et là, cet homme, tout d'un coup, il sait marcher. La guérison est totale. Et vous lisez à la fin du verset 16, il dit, cet homme qui lui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est-à-dire vraiment guéri, c'est pas seulement ce qui l'empêchait de marcher, mais bon, je sais pas dans quel sens il était boiteux, mais tout est rétabli. Et il a les muscles, il a tout, et il peut marcher. Mais il l'a obtenu, c'est par la foi. Il y avait dans ce regard vers Pierre, et Pierre qui regarde dans cet homme, qui voit la foi dans le regard de cet homme, et cet homme qui sait et qui s'attend à quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, que Dieu voit. Et Pierre dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit, je n'ai pas, j'ai pas d'argent à te donner, j'ai pas d'or à te donner, j'ai rien de matériel à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ça a apporté de la joie. Une pièce serait apporté du soulagement pendant une heure ou deux, mais la guérison totale, ça lui a apporté une autre vie. Et c'est cette image, c'est cette œuvre de Dieu, ces caractéristiques de Dieu, quand on vient à Dieu, on reçoit de Dieu, c'est pas pour nous donner juste un petit boost pour quelques heures, mais c'est pour nous donner une vie nouvelle, une espérance nouvelle. Et on l'obtient par la foi. Quelque chose qui était si banal, mais lorsqu'on fait intervenir le nom de Jésus-Christ, c'est autre chose. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait de cette puissance. Il dit, par quel pouvoir est-ce que vous avez fait cela ? Et Paul et Pierre avaient répondu, c'était par la puissance que Dieu nous donne. Vous savez, dans Romains chapitre 1, verset 20, il dit, il y a des choses qui sont visibles, qu'on peut voir à l'œil nu. Et si vous regardez dans Romains 1, verset 20, il dit, la puissance de Dieu se voit à l'œil nu. Les foules, les gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu dans cet homme. Et le résultat, si nous regardons au début du chapitre 4 et au verset 4, il nous dit qu'à la suite de cela, il y aurait près de 5000 hommes qui vont croire, devenir disciples de Jésus-Christ. La puissance de Dieu s'est vue là. C'était une manifestation dans ces détails tout ordinaires. Il y a quelque chose qui s'est passé entre cet homme et qui est passé à travers de Pierre, parce que la puissance n'était pas en Pierre, parce qu'il était apôtre, mais la puissance était dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tout est dans Jésus-Christ de Nazareth et non pas Pierre, il ne faut pas après s'intéresser ni à Saint-Pierre, ni à Saint-Jean, ni à Saint-quelqu'un d'autre. Si Pierre lui-même nous dit, c'est pas moi, ne nous regardez pas, c'est ça qu'il dit à la fin verset 12, chapitre 3, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était de notre propre puissance, ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ?» Il dit, « C'est pas nous, ne nous regardez pas, faites pas vos prières à Saint-Pierre, ni à Saint-Jean, ni à rien d'autre. Dis-nous, on n'a rien fait. Tout celui qui l'a fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth et pas un autre. » C'est par sa puissance, et sa puissance elle est manifeste, et regardez vers lui, pas à nous. Et donc, ne nous inventons pas des prières et des rites qui s'adressent à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, puisque ceux-là même nous ont dit, ne nous regardez pas, regardez à Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ était connu dans la Judée, dans la Galilée, partout on le connaissait, Jésus de Nazareth. Parce que vous savez, le nom de Jésus, c'était courant. Jésus, c'est en fait, en hébreu, c'est Josué. Et comme Josué, c'était un grand nom dans l'histoire des Juifs, on donnait le nom de Josué à pas mal d'enfants. De garçons, ils s'appelaient Josué, il y avait toutes sortes. Donc pour les distinguer, celui-là, s'il s'appelait Josué ou Jésus, c'est celui de Nazareth. C'était son surnom. Et comme ça, on pouvait le distinguer de tous les autres. Mais appelé Jésus de Nazareth, tout ce que ça voulait dire, c'est de la ville d'où laquelle il venait, mais ça ne disait rien sur sa nature. Tandis que quand Pierre dit Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est autre chose. Parce qu'il a ajouté, c'est le Christ, c'est le Messie, celui que Dieu a envoyé. C'est pas seulement un autre Jésus, un autre Josué, dans le pays, mais c'est, et là il est en train d'identifier, il le distinguait de tous les autres, Lui, c'est le Messie envoyé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est curieux, c'est que le fait d'être de Nazareth, ce n'était pas tellement une recommandation. Hein. Après, Philippe, il a été voir son frère, Nathanaël, il lui a dit, « Tu sais, nous avons rencontré le Messie. Il vient, Jésus de Nazareth. » Il dit, « Jésus de Nazareth. » Il dit, « Il n'y a rien de bon qui sorte de Nazareth. » Pour lui, le fait de dire Nazareth, ce n'était pas une recommandation. Mais il avait du mal à accepter cela jusqu'à Jésus dit, « Écoute, Nathanaël, peut-être le fait que je vienne de Nazareth, ça ne te dit rien. Mais tu sais, quand tu étais sous l'arbre, là, avant que ton frère vienne t'appeler, quand tu étais sous l'arbre, j'ai vu tout ce que tu as dit. Je t'ai vu. » Il dit, « Ah, là, c'est autre chose. » Là, c'est autre chose. Il dit, assurément. Là, si toi, tu as su, et peut-être que Nathanaël était en train de prier et disait, « Oh Dieu, si je pouvais rencontrer le Messie, s'il pouvait venir dans ma vie, si je pouvais le rencontrer, ça serait extraordinaire. » C'est comme ça que j'imagine, ça ne dit pas. Mais tant que Jésus a dit, « Mais je sais ce que tu faisais sous l'arbre. » Et Jésus dit, je suis là, là il a associé, il a dit, oh, ça c'est extraordinaire, c'est la réponse à ce que je priais sous l'arbre. Dieu a répondu comme ça dans ma vie, comme ça, le même jour. C'est extraordinaire. Et Nathanaël est devenu un disciple de Jésus-Christ. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il a été fidèle jusqu'au bout et il est mort en martyr. Mais ce n'était pas une question de Jésus de Nazareth, c'était une question de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous regardez dans votre Bible, vous prenez une concordance et vous regardez, c'est nulle part ailleurs, seulement ici dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4 qu'il est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est aussi, vous savez, lorsque l'apôtre Paul, Saul à l'époque, qui était en train de persécuter les chrétiens, il est sur le chemin de Damas, et puis tout d'un coup il y a cette lumière qui le frappe, il tombe à terre et puis il voit quelqu'un et dit « Mais qui es-tu ?» Il dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et la vie de l'apôtre Paul n'était plus la même. Il dit, « Celui que tu persécutes, je suis le Jésus de Nazareth. » Tu sais, celui que tes amis, là, ils ont crucifié, celui que, et que tu dis que c'était que du mensonge et qu'en fait, ils ont volé son corps, ils l'ont mis ailleurs, eh bien, c'est moi qui te parle. Alors là, l'apôtre Paul, il n'a plus été le même après ça. Parce que, vous savez, ce n'est pas juste une question de connaître Jésus et de connaître l'histoire qui s'associe à Jésus, connaître les conditions dans lesquelles il est né, connaître les conditions dans lesquelles il est mort, et puis connaître deux, trois miracles. Ce n'est pas ça qui change. C'est lorsque je me rends compte de qui il est réellement et d'où il vient, quelle est sa nature, qu'il est Dieu incarné. C'est ça qui fait toute la différence. L'apôtre Pierre va, là au verset 12, il dit, « Mais ne me regardez pas !» Mais après, il va leur parler à ce peuple dans le temple, qui sont venus pour prier. C'est à l'heure de prière, tous ces gens sont là. Il y a encore ce boiteux-là dont on ne connaît pas le nom, et lui, il est encore en train de danser, il est encore tellement content, et il est en train de toucher ses jambes, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est vrai, je me sens bien, tout ça, vous pouvez imaginer le pauvre. Et Jésus et Pierre parlent aux autres, et regardez, il fait quelques accusations. Au verset 13, il dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Et voilà l'accusation. « Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » Il dit, « Pilate voulait le relâcher. » Pilate a dit, « Je ne trouve rien de mal en lui. » Mais vous, vous avez insisté qu'il soit mis à mort. Il dit, au verset 14, « Vous avez renié le saint, le juste. » Il dit, « Le saint, le juste, vous, vous dites que vous êtes croyant en Dieu. » Et vous avez renié le Saint, le Juste. Et la deuxième partie du verset 14 dit, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et vous l'avez échangé pour un meurtrier. Voilà. C'est comme ça que vous avez traité Et verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie. Imaginez, le prince de la vie, celui qui nous donne la vie, vous le tuez. Vous savez, on nous raconte l'histoire de cette poule qui pondait des œufs en or. Et cet homme, il reçoit un œuf par jour. Et ça ne lui suffisait pas. Il voulait le paquet. Donc un jour, il va et il tue la poule pour l'ouvrir. Et il ne trouve rien du tout. Mais maintenant, il n'y a plus d'œufs. Mais vous savez, et vous dites, mais il est dingue. Oui, mais Pierre leur dit, il dit, vous, le prince de la paix, celui qui pouvait vous donner, le prince de vie, celui qui pouvait donner la vie, eh bien, vous l'avez tué. Il dit, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais il dit, heureusement, Dieu, dans sa grâce, l'a ressuscité. Et il peut encore vous donner la vie aujourd'hui. Il dit au verset 17, chapitre 3, verset 17, il dit, maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Ainsi au fait. Il dit, bon, vous ne saviez pas exactement ce que vous faisiez. C'est un peu comme l'enfant. Hein. Vous prenez un enfant de 5 ans, vous lui proposez un bocal rempli de bonbons et vous lui proposez un billet de 500 euros. Qu'est-ce qu'il va prendre? Et dans son innocence et dans son ignorance, il va prendre les bonbons. Mais il ne sait pas combien de bonbons il aurait pu acheter avec les 500 euros. Mais vous savez, il dit, vous avez agi dans l'ignorance et Dieu comprend, Dieu sait que ce n'est pas ignorance. C'est pour ça que Jésus sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, quand on a affaire avec un juge qui a cette compassion et cette compréhension et qui se rend compte que on a fait des mauvais choix et c'est basé sur notre ignorance et notre incapacité et qui tient compte, il dit, écoute, je sais qu'ils ont fait un mauvais choix, ils sont en train de courir dans le monde, ils veulent le plaisir du monde et le monde après, à un certain moment, il va les avaler parce que quand il n'y a plus d'argent, quand il n'y a plus de plaisir, quand il n'y a plus de jeunesse, on les met de côté. Il dit, ils ont choisi les plaisirs du monde. On s'amuse bien un soir, mais le lendemain matin, on a un mal de tête comme ça. Il dit, ils ont choisi ça au lieu de venir après moi et d'avoir quelque chose qui dure l'éternité. Il dit, c'est par ignorance, je comprends, c'est pour ça que je suis après eux. Je reviens et je propose encore une fois. Vous ne voulez pas de la vie éternelle, vous ne voulez pas de Jésus-Christ, vous ne voulez pas de ce que Dieu a à vous offrir. Offrez le bocal de bonbons à cet enfant et puis après, et le billet de 500, et après qu'il a choisi le bocal, il dit, mais non, il ne faut pas prendre ça. Et puis vous reprenez le bocal, vous allez voir ce qui va arriver. Vous voyez la révolution. Alors que vous êtes en train de chercher son bien. Mais combien de nous, en tant qu'adultes, on fait la même chose avec Dieu? Le monde nous offre des bonbons et encore les bonbons sont empoisonnés. Et Dieu essaye de lui dire, non, prends pas ça, prends ce que je t'offre. Non, je veux mes bonbons, mon plaisir, mes ambitions, mes amis. Ça, c'est, Paul dit, Pierre dit, vous savez, c'est Dieu comprend, c'est par ignorance. Mais il ajoute, verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Il dit, mais vous savez, finalement ce que vous avez fait, ça n'a fait qu'accomplir le plan de Dieu. Parce qu'en le rejetant, en le crucifiant, vous avez fait de lui le sauveur du monde. Vous avez agi par ignorance, mais en fait Dieu s'est servi de votre ignorance et de votre bêtise pour réaliser son plan. Et c'est parce que vous l'avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité. Maintenant, je peux vous proposer, encore une fois, la vie nouvelle, que vous n'avez pas prise pendant que Jésus était là, mais maintenant vous pouvez le prendre. Et donc au verset 19, il dira, repentez-vous Donc, et convertissez-vous pour vos péchés, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Il dit, oui, le tort a été fait, mais vous pouvez rattraper la situation. Il dit, ces Juifs qui eux, se croyaient sauvés, il dit, nous sommes nés en Israël. Nous venons adorer dans le temple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes certainement sauvés. Il dit, non, ça ne change rien du tout. Vous pouvez être né dans une église, vous pouvez avoir passé toute votre vie dans une église, vous pouvez avoir une rangée, une étagère remplie de Bibles, vous pouvez avoir tout ça et être perdu. Il dit, non, il dit, il y a une chose qu'il faut faire, c'est de vous repentir. Repentir, le mot grec veut dire faire demi-tour. C'est-à-dire, je continue plus dans la même direction, je change de direction, je me repens. Il dit, convertissez-vous. Convertir, vous savez ce que ça veut dire convertir? Ça veut dire qu'il y a un changement. Quand on convertit, vous prenez un transformateur, vous convertissez du 110 en 220, ça veut dire que ce qui sort, c'est du 220, c'est plus du 110. Il dit, convertissez-vous, ça veut dire que ce que vous étiez n'est plus. Hein? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne peux pas recevoir Jésus-Christ et je continue pareil. Il n'y a pas eu de conversion. S'il n'y a pas de changement de vie, s'il n'y a pas un changement de désir, changement de goût, il ne s'est rien passé. Mais j'ai prié. Je ne sais pas, tu as prié, mais le Seigneur n'a pas fait quelque chose. Parce que si le Seigneur avait fait quelque chose, ce ne serait plus pareil. Et là, il leur dit, vous savez, repentez-vous, convertissez-vous. Et c'est là où il fait appel à ces... Il dit, vous savez, ce Jésus, c'est celui que Moïse... Regardez verset 22. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de vous. Il dit, vous savez, ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien c'est celui-là, c'est celui que Moïse a promis. Il dit, donc convertissez-vous. Vous dites que vous aimez Moïse, que Moïse est votre prophète, eh bien lui vous dit de recevoir ce Jésus-Christ. Il continue au verset 26, il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est en Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Abba dit, en tes postérités, tes descendants, et vous lisez Galates 3:16, il dira, c'est une postérité en particulier, c'est Christ. Il dit, Dieu a promis à Abraham, il aurait dit que toutes les nations de la terre, et c'est ça qui est beau, parce qu'il n'a pas dit seulement les descendants d'Abraham seront bénis, mais il a dit toutes les nations de la terre, nous sommes tous inclus. La Bible n'est pas la religion des Blancs. Dieu en a parlé à Abraham. Abraham, c'était un sémite du Moyen-Orient. Et il a dit, et tu auras un descendant qui apportera la bénédiction à toutes les nations. Et ça a été toujours la pensée de Dieu. Les Juifs, par la suite, ils ont pensé que c'était rien que pour eux. Ça, c'est leur problème. Mais dans l'esprit de Dieu, ça a toujours été pour toutes les nations. Jésus a parlé, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. de Judée. Je vais les trouver aussi. Et je formerai un troupeau, pas une bergerie, mais je formerai un troupeau avec un seul berger. Jean chapitre 10. Il dit, c'est là le plan de Dieu. La guérison du boiteux, tant mieux pour lui, ça a changé sa vie, ça lui a donné une vie nouvelle. Mais ce qu'il fallait voir, c'est pas dans la guérison du boiteux, c'était pas la chose la plus extraordinaire que Dieu avait faite là. Ce qu'il voulait mettre en valeur, c'est que les hommes puissent voir la puissance de Dieu qui se voit à l'œil nu et qui se rendent compte de ce qui est Jésus et que Jésus est vraiment celui qui peut sauver. Et c'est vers lui qu'il faut tourner les regards, c'est de lui que nous avons la vie et c'est vers aucun autre. C'est pas vers Pierre le guérisseur qu'il faut tourner les regards. C'est pas celui qui a le don de guérison qu'il faut voir, c'est voir celui qui est l'origine de ce pouvoir, l'origine de cette puissance, et c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Souvenez des apôtres, ils ont cru dire quelque chose d'intelligent sur la montagne de Transfiguration, quand ils ont vu Jésus avec Moïse et avec Élie, ils disent « Wow, super, on va construire 3 tabernacles, une tente pour chacun !» Ce sera un lieu super. Les gens viendront pour prier. Il y aura Moïse, il y aura Élie, il y aura Jésus. Les 3 grands faiseurs de miracles dans l'Ancien Testament. Ce serait super. Et vous savez ce que Dieu a fait avec leur idée? Il a dit, il y a un nuage qui est passé. Il a effacé et Moïse et Élie, ils ont disparu. Il restait Jésus seul. Et après, une voix vient du ciel et dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est le message, et encore aujourd'hui c'est toujours vrai, il n'y a que lui, personne d'autre. Tous ceux qui arrivent à faire des choses, eh bien j'espère qu'ils le disent que c'est au nom de Jésus-Christ et qu'ils tournent nos regards vers Jésus-Christ, comme Pierre l'a fait. Et ne nous laissons pas embobiner par le coup du miracle, s'il y a des miracles, moi je crois aux miracles, Dieu peut faire des miracles. Il n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il est toujours capable. Mais dès que je vois le miracle plutôt que de voir Dieu, c'est un autre problème. Il dit, ils ont commencé à adorer la créature plutôt que le créateur. Vous mangez le gâteau et vous ne pensez pas à la cuisinière, ça va pas, non? Et c'est pareil avec Dieu. Et donc, c'est à chacun de nous de s'évaluer, chacun de regarder sa propre vie et de dire, moi, est-ce que vraiment j'ai sa vie nouvelle? Est-ce que je suis vraiment à Jésus-Christ? Oui, je m'appelle Pierre, Paul, Marie, Elisabeth, j'ai un nom chrétien et alors, Le nom est venu après la naissance, il termine rien. Il dit, moi j'étais baptisé, oui mais c'est pas ça. Il n'aura pas dit, il a dit repentez-vous et convertissez-vous. Et une vie changée. Il dit convertissez-vous, repentez-vous et puis convertissez-vous. Et puis alors, donc il y a cette transformation qui est visible, que tout le monde peut voir. Quand Jésus a guéri quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, la personne pouvait marcher après. C'était la preuve que la personne était réellement guérie. C'est le cas ici. Et quand Jésus sauve quelqu'un, c'est quelqu'un qui commence à marcher une nouvelle vie. Sinon, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu de nouvelle naissance. Autant, je me souviens quand notre fille aînée est née, elle est née, la sage-femme a dit, vous avez une petite fille? Et ma femme a dit, mais je ne l'ai pas entendue. Et tout d'un coup, oui, elle était rassurée. C'est le signe qu'il y a la vie. Bon, après ça, ce n'était pas agréable de l'entendre. Mais là, c'était agréable de l'entendre. Et le Seigneur, vous savez, si j'ai reçu la vie nouvelle en Jésus-Christ, eh bien, il faut le signe de la vie nouvelle. Est-ce qu'elle est évidente? Il dit, je l'avais, mais je l'ai perdue. Ben, il faut revenir à la source. Vous savez, c'est quand la batterie... j'ai un rasoir, quand d'un coup ça s'est arrêté, ben, il faut rebrancher. Hein. On va à la source et on remet du pouvoir dedans. Il faut revenir à Jésus-Christ. Pas rester, on est là. Et reprendre et agir et vivre cette vie nouvelle. Jésus-Christ qui est venu dans le monde, c'est pas juste pour une petite histoire pour les enfants. Le bébé Jésus, il est né mignon dans une crèche. S'il n'y avait que ça, vous n'avez rien du tout. Vous êtes malheureux. Autant voir un agneau qui naît, autant voir un veau, c'est beau aussi. Hein. Mais Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Celui qui est venu pour changer notre vie. Vous savez, ne laissez pas passer ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année, qui sont en réalité les fêtes de la naissance de Jésus-Christ, sans vous assurer que vous avez réellement Jésus-Christ comme sauveur et que vous vivez réellement pour lui et que sa puissance puisse se manifester à travers votre vie. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour l'amour. Nous en parlons depuis plus d'une heure, cet amour que tu as eu. Et c'est par amour que tu as envoyé ton Fils, et c'est par amour que tu t'es rendu compte que tu as compris que nous avons fait des mauvais choix, mais par ignorance. Nos choix sont souvent des choix enfantins, sur le plaisir immédiat plutôt que sur le long terme. Et Père, c'est un bon moment. Alors que tout le monde est en train de faire la fête et ils oublient celui pour qui la fête existe, eh bien Seigneur, que nous puissions nous recentrer sur toi et voir pourquoi tu es venu et comprendre que c'est pour notre salut. Père, tu connais chaque cœur, tu connais les pensées de chacun, tu connais les doutes de chacun, tu connais les hésitations de chacun. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de mesurer le prix que ça pourrait coûter. Mais Seigneur, le bon choix ne doit pas se faire selon notre ignorance, mais selon ta recommandation. Père, je te prie d'aider chacun, d'accompagner chacun, pour que cette période de fin d'année soit un moment mémorable pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.